Bonjour à tout le monde ici, quelques-uns que je connais, beaucoup d'étudiants que je ne connais évidemment pas. Ce que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, c'est un angle un peu particulier. Sous le titre « Justice et sorcellerie en Afrique », je me réfère en fait à un livre là, que je vais faire circuler et que vous pourrez consulter, et à des expériences personnelles, dont certaines sont lointaines, d'autres plus proches, dans certains pays, je ne vais pas entrer là-dedans, mais tout le thème à la fois dont je vais parler, et qui a été à la fois la source de ces informations, mais aussi un lieu d'observation, vous verrez pourquoi, c'est un colloque qui s'est tenu à Yaoundé, il y a déjà quelques années, en 1995, et qui portait sur le thème de justice et sorcellerie. Il était fait dans le cadre de l'UCAC, l'Université catholique d'Afrique centrale, qui est une université internationale des pays d'Afrique centrale, université catholique, qui regroupe donc des étudiants du Cameroun, bien entendu, mais aussi du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine et deux ou trois autres pays, je dois dire, je ne sais plus bien lesquels. C'est un campus assez remarquable dans son organisation, dans la qualité de son enseignement, de ses étudiants. Et pourquoi ont-ils choisi ce thème ? Eh bien, la sorcellerie fait partie de ces choses, comme la sexualité dans certains endroits, auxquels on pense toujours et dont on ne parle jamais. C'est un sujet dont l'approche en public, dans la bonne société, ne se fait pas, mais en privé, elle revient perpétuellement. Et l'initiateur principal de ce colloque, le père Éric de Rosny, dont certains d'entre vous ont entendu parler, parce que d'abord il avait fait un livre dans la collection Terre humaine intitulé « Les yeux de ma chèvre », qui avait fait un certain bruit, en ce sens qu'il était, il raconte son initiation comme ganga, c'est-à-dire comme guérisseur de vin dans la région de Douala. Ensuite, il a continué dans cette direction en pratiquant une activité que l'Église a essayé d'empêcher, mais il y a un dualisme de pouvoir, c'est un jésuite, il ne dépendait pas directement des autorités locales, donc il était protégé de ce côté-là, et il a fait un lieu de consultation dans son à Douala, dans lequel il recevait, non pas comme jésuite, mais comme ganga, des gens qui avaient des problèmes, et il les résolvait en discutant avec eux, en essayant de jouer sur les deux normes. Je ne vais pas insister là-dessus, mais cela seul déjà mériterait étude, car cela rappelle une très vieille tradition dans le monde des jésuites. Un de mes anciens élèves, qui est actuellement à l'île de la Réunion, continue lui aussi cette tradition, je l'ai vu il y a peu de temps, alors qu'il venait de marcher dans le feu dans un culte hindou. Il étudie ces cultes hindous, mais en même temps, il les pratique au quotidien avec les prêtres indiens, tout en étant jésuite, et il y va dans le même état d'esprit que le faisaient aussi des jésuites en Chine ou des jésuites surtout dans le sud de l'Inde. C'est un peu ce que les gauchistes appelaient autrefois de l'entrisme, c'est-à-dire qu'on va à l'intérieur, mais on va à l'intérieur un peu comme si vous avez fait de la bactériologie, comme ce que fait le bactériophage, qui est une espèce de virus vecteur qui pénètre dans les bactéries. En quelque sorte, on entre dans le système et en même temps, on y vient quelque part pour le contaminer. Ou tout le monde pour dire, vous aussi, vous êtes comme nous. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler très longuement, non pas dans ce milieu africain, mais dans un milieu hindou, où la chose est encore plus intéressante, parce que des deux côtés, l'Indien dit aux chrétiens, vous aussi vous êtes comme nous, oui. Vous dites Christ, mais en fait c'est Krishna. Et puis le chrétien dit à l'hindou, oui, enfin vous êtes comme nous. Et vous avez tout un jeu d'ambiguïté. Là encore, c'est une autre avenue, mais je ne vais pas l'explorer maintenant. Donc, il avait eu l'idée de se dire, je peux, sur le campus de cette université, qui est un peu hors du monde, en tant que non-suspect de rejeter toutes ces pratiques, puisqu'il avait effectivement une très forte implantation, je l'ai vu parmi avec Singanga, je les ai rencontrés avec eux, ceux qu'ils connaissent, on a été vraiment, c'est pas artificiel. Et c'est un sujet majeur. Mais par ailleurs, ce sujet était posé comme question très souvent, non pas un peu, disons, dans le village lointain qu'affectionnent ou qu'affectionnaient les ethnologues, mais au cœur de la modernité. Et ça, c'est le deuxième point important à retenir, donc la sorcellerie en tant que telle, mais au cœur de la modernité. Et c'est surtout cela sur lequel on va revenir. Et posé par qui? Par les juges, par les avocats, par le monde judiciaire, qui souligne, signalait, et notamment signalait à l'université, aux professeurs de droit notamment, la recrudescence considérable des procès en sorcellerie, des accusations de sorcellerie, non seulement au Cameroun, mais dans toute la région. Je prends un exemple. À l'ouverture du colloque, le recteur de l'université était là. C'est un professeur camerounais de sciences, je crois, disant « Il n'y a pas de secteur de la vie sociale où la sorcellerie ne soit pas ». C'était dans son discours. Mais ensuite, on voit qu'à Yaoundé, il y a environ 40 procès pour sorcellerie par an auprès des tribunaux, et dans diverses sous-préfectures, à peu près 100 en moyenne. Et récemment, j'ai reçu une lettre au sujet d'un magistrat de la cour criminelle de Bangui, M. Jean-Pierre Cabillo, qui écrit « 40% des affaires concernaient des pratiques de sorcellerie. Les peines pouvaient aller jusqu'à la détention perpétuelle. On a rarement vu jouer la grâce présidentielle ou les lois d'amnistie en faveur des condamnés pour pratiques de sorcellerie. » Un livre assez important aussi, « Sorcellerie et politique en Afrique », qui est paru chez Cartala, un livre de Pierre Guesquière, qui a écrit pas mal de choses. Ça, c'est à faire circuler, oui. détaille les chasses aux sorciers qui se sont répandues en Afrique du Sud, des commandos, littéralement, qui viennent expurger les sorciers, les massacrer, et avec simultanément, d'ailleurs, une mise en valeur, au contraire, de certaines pratiques, puisque les Inanga, comme on dit là-bas, c'est la même chose que les Nganga, sont reconnus comme médecins et leurs soins sont remboursés par la sécurité sociale. Donc, un effort de division en deux, qui vient d'ailleurs sera récurrent dans tous les discours qu'on va entendre, les sorciers et les contre-sorciers, ceux qui font le bien, ceux qui font le mal. Aux Antilles, on dit parfois, ou dans d'autres endroits, ceux qui travaillent de la main droite, de la main gauche, ceux qui font du blanc ou du noir, la magie blanche, la magie noire, etc. Cette dualité. Mais, comme on le verra, cette dualité correspond en fait à la face de Janus de chacun. C'est-à-dire qu'un sorcier, pour l'un, est une victime de sorcier à ses yeux. Je me sens... J'accuse quelqu'un de m'avoir ensorcelé, je deviens celui qui l'ensorcelle. Mais lui, il est à la fois victime et acteur, et on se transmet en quelque sorte les deux rôles le nom d'une sorte de chaîne. Alors, c'est le cadre de ce colloque, ce livre, ces réflexions, a été cela. Par ailleurs, je me trouvais dans une position assez particulière, on était... trois invités extérieurs, il y avait Alban Bensa, qui, pas plus que moi, n'avait une longue pratique de l'Afrique, c'était même son premier séjour en Afrique, étant donné qu'il est spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, qu'il avait travaillé sur les problèmes de sorcellerie en France. C'est un chercheur de très bonne qualité, pour qui la découverte de l'Afrique est importante. Il y avait aussi M. Guesquière, qui lui, alors, est un spécialiste de la sorcellerie en Afrique, surtout du Sud. Il y avait aussi un anthropologue de l'université Yaoundé, M. Abenga, dont les travaux sont souvent fort intéressants. Mais, de l'extérieur, surtout Bensa et moi, nous étions en même temps des participants, mais nous faisions aussi des observations sur le colloque. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ce colloque, dont on a très vu de vie qu'il n'était pas qu'un colloque, devenait à lui-même un objet posé à Yaoundé, la question sorcellerie au cœur de l'université, et voyez les dynamiques qui vont se produire. D'abord, il y a une dynamique quantitative. Il avait été prévu de faire ça dans le grand amphithéâtre de l'université qui contenait 200 ou 250 places. C'était impossible, il y a eu 650 inscrits. Il a fallu mettre d'urgence le gymnase en salle de conférence. Ensuite, des gens de toutes sortes de milieux, des enseignants, des étudiants, bien entendu, et puis des inconnus, disons, qui sont venus s'inscrire à un colloque universitaire. Et ensuite, les débats. Je ne peux vraiment pas en parler longuement. Il y a, dans le livre qui a été fait et qui est publié chez Cartala, je fais circuler, vous pourrez tous le voir, une partie des débats ou des questions qui ont été posées, qui ont été toutes recueillies sur un papier, le montre. Les débats ont été extrêmement houleux, notamment lorsque les anthropologues, moi pas trop parce que j'avais une position un peu à part, mais notamment Albin Bensa qui parlait, et M. Mbenga aussi, d'une approche très ethnographique, ethnologique, explication sociologique de la question, ont suscité d'immenses vagues de réprobation, de murmures, en disant, et alors, ils ne savent pas ce que c'est, le cœur de la sorcellerie est là, elle nous attire tous, etc. Et là, il y avait toute une observation à faire sur l'accueil du discours anthropologique dans la population étudiante, professorale, juridique qui était autour de nous. Alors, je vais simplement, puisqu'on n'a pas un grand temps, et que je vais vous présenter à la fois ce livre, ce colloque et quelques éléments complémentaires, on va voir quelques champs d'action de la sorcellerie tels qu'elles ont été présentées lors de ce colloque, dans le cadre de la modernité. Hein, je tiens bien, dans le cadre d'institutions qui correspondent à la société contemporaine, urbaine, c'est-à-dire les entreprises, le monde étudiant et puis le monde juridique. Je ne parlerai pas, parce que c'est ma spécialité, de la partie médicale. J'aurais trop l'impression de me répéter, puis ce n'est pas nécessairement là que c'est le plus intéressant, car là, cela s'enracine alors beaucoup plus dans des traditions et des retours même au village dans la pratique. Alors, deux communications qui m'ont plus frappé étaient celles concernant les entreprises et la sorcellerie dans les entreprises, notamment dans les entreprises modernes, industrielles, filiales de grandes sociétés ou d'initiatives locales. Un économiste, M. Nanchuang, a insisté avec énormément d'exemples sur la présence quotidienne de la sorcellerie dans les entreprises, dans les initiatives, les accusations qui retentissent sur des individus, qui les bloquent, qui les font éliminer, qui les font ne pas prendre certaines initiatives. Et là, dans le livre, il y a quelques exemples détaillés. C'était extrêmement impressionnant. Et il faisait une analyse des coûts invisibles engendrés par cela. Coûts de tous ordres, commandes laissées non utilisées, employés mis sur la touche, initiatives ou réponses à des fournisseurs bloqués, etc. Et tous ces blocages d'initiatives économiques. Par ailleurs, un consultant en organisation des entreprises, M. Kamben, de Douala, montrait aussi à quel point, à l'intérieur de l'entreprise, les accusations de sorcellerie au sein du personnel intervenaient dans les promotions, dans les blocages de promotion, dans les rapports interpersonnels, entraînant là aussi des dysfonctionnements, aussi bien dans les petites entreprises, même les très petites entreprises, comme on dirait ainsi dans les classements, que dans les plus grandes. Mais il analyse aussi comment certains utilisent la référence à la sorcellerie comme une source de pouvoir dans l'entreprise et comment ils utilisent la sorcellerie, ils jouent de la sorcellerie ou de l'aura de la sorcellerie qu'ils construisent autour d'eux-mêmes pour leur propre promotion, pour accéder à une sorte de forme mystique de domination qui vient à son tour les aider à franchir des barrières que leurs compétences purement techniques ne leur permettraient pas de passer. Dans le monde étudiant, une sociologue de l'université de Lucas, Mme Marie-Thérèse Menguet, avait fait une enquête assez poussée une enquête sociologique par questionnaire et par entretien auprès des étudiants de l'UQAC, en échantillon dont je ne me souviens pas, mais assez important, quant à leur position face à la sorcellerie. Qu'en pensent-ils? Comment la vivent-ils? Y adhèrent-ils? Quelle conduite détermine-t-elle chez eux? Et ses conclusions est que leur croyance à la sorcellerie était tout à fait générale. La dénégation de la sorcellerie venait chez des étudiants qui la niaient par correction sociale jusqu'au moment où le 8 mai venait dans un deuxième temps. On a tous connu ça sur des terrains, des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu tout ça, et un jour ou l'autre, par le biais de quelques fentes dans la carrosserie, on voit passer des choses, et après, cela paraît normal et évident. Et ils en font bien souvent une grille de lecture de leurs échecs. Échecs scolaires, absence d'emploi à la sortie d'université, une absence d'emploi chez des diplômés, et ils guettent le sorcier, ils essayent de l'identifier comme un proche parent généralement, auquel on impute une action de sorcellerie sur le thème classique, général et passe-partout de la jalousie, mot qui est employé très souvent, qui est certainement très polysémique. Alors, pour en sortir de cet ensorcellement, c'est pas la lutte pour avoir de meilleures notes aux examens qui apparaît comme la voie, puisqu'on est bloqué, il faut débloquer, on consulte des personnes, des devins, des sorciers, enfin des gangas. Et en fait, ils entrent à ce moment-là dans un véritable circuit de ce qu'elle considère comme une aliénation, ou alors ils adhèrent à des groupes de prière. Groupes de prière qui peuvent être les différents cultes de type charismatique, des groupes de prière parfois très localisés, d'autres appartenant à certaines églises extrêmement nombreuses, comme vous le savez. Et cette présence chez les étudiants lui a paru comme un frein colossal dans la dynamique universitaire, à proprement parler, des carrières universitaires pour un bon nombre d'étudiants, notamment pour ceux qui sont à la marge et qui y voient une explication déculpabilisante de leurs échecs et qu'ils vont retourner sur le monde extérieur. Nous avons tous d'autres façons d'impliquer le monde extérieur. Chez nous, c'est l'origine sociale, c'est ceci, c'est cela. On peut faire beaucoup d'homologies, mais je ne parlerai pas donc du champ de la maladie, que je mentionne quand même, car c'est présent non pas seulement dans la tradition villageoise, mais aussi en ville, mais avec un continuum peut-être plus grand que dans ces autres domaines qu'on a vus. Et j'aborde tout de suite la question qui est au cœur d'aujourd'hui, le problème juridique. Vous êtes peut-être moins familier. Étant inséré depuis des années dans une faculté de droit, j'ai été sensibilisé aux juristes. Au départ, je dois dire que comme anthropologue, et accessoirement comme médecin, j'ai toujours regardé pendant très longtemps les juristes comme des gens qui travaillent un peu, apprennent par cœur des choses, et après, bon. Or, en les fréquentant, j'ai été frappé de voir que c'est des personnes qui sont éduquées à une pensée extrêmement rigoureuse. Le droit se comporte, au moins dans nos sociétés, particulièrement le droit français, comme une mécanique dont les engrenages doivent être réglés avec une précision absolue. C'est une formation à la logique, à l'exigence, à la précision. Et ceci s'est transmis à beaucoup de juristes. J'ai eu l'occasion au Cameroun de discuter avec pas mal d'avocats ou de juges. Il y a un bâtonnier qui était un peu particulier par ça, mais autrement. Et on sentait chez eux ce désarroi lorsque ils étaient confrontés à prendre des positions qui ne répondaient pas, qui n'entraient pas dans ces engrenages. Alors, un petit retour en arrière. il y a une très grande différence dans le droit vis-à-vis de la sorcellerie entre les pays africains héritiers de la colonisation britannique et les pays héritiers de la colonisation française. Dans les pays de langue anglaise, il n'existe aucun article du code. D'ailleurs, dans le common law, vous savez que ce n'est pas du tout codifié comme là, mais les jurisprudences, c'est le juge qui fait la loi, vous le savez, dans le monde, dans le common law. C'est-à-dire, c'est en fait la jurisprudence qui crée la loi, la structure. Alors que dans les pays de code écrit, comme les pays francophones, d'Afrique, ils en ont hérité aussi, c'est un code préétabli auquel le juge confronte le grief et l'insère dans les catégories préexistantes. Dans le monde anglophone, donc, rien ne prévoit dans aucun acte de droit, aucun texte officiel, la sorcellerie comme délit. Par contre, il y a fort longtemps, déjà en août 1899, avait été publié The Witchcraft Suppression Act, l'acte de suppression de la sorcellerie, et qui condamne non pas les sorciers, mais les accusateurs, considérant que c'est sur eux qu'il faut faire porter l'effort juridique, et non pas sur l'accusé qu'est le sorcier. Et je cite le texte de cet acte. Celui qui impute à un autre l'usage de moyens non naturels pour causer des dommages à autrui, en d'autres termes d'être un sorcier, est reconnu coupable d'offense et est passible d'une peine ne dépassant pas $200 ou un emprisonnement de moins de 3 ans ou 20 coups de fouet au maximum. On a donc une orientation qui d'emblée implicitement implique que la sorcellerie est causée par l'accusateur et non pas par l'accusé. Ce qui est une position très différente de celle qu'on va trouver dans les codes. Dans le code Napoléon, il y avait un article sur la sorcellerie. Et cet article a été repris dans les codes de droit pénal de tous les pays francophones, y compris de Madagascar. Je crois que c'était l'article 101, mais j'en suis pas sûr. Je prends l'exemple, je vous cite ce qui est écrit dans le droit pénal camerounais. Sorcellerie est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs, celui qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou divination, susceptibles de troubler l'ordre ou la tranquillité publique, ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou à la fortune d'autrui sous forme de rétribution. On se retrouve là donc dans une situation complètement inverse. Au lieu de pénaliser l'accusateur, on pénalise l'accusé, car personne ne va se déclarer comme sorcier. Nécessairement, il va falloir qu'il soit accusé. Donc, le procès ne va pas être fait par celui qui est accusé, c'est-à-dire comme dans le droit anglais, où on va dire « je suis accusé de sorcellerie, il faut punir mon accusateur », mais on va punir non pas l'accusateur, mais l'accusé. Il est accusé d'être sorcier, voilà les peines qu'il encourt. Et alors, face à cela, que va faire le juge ? Et aussi bien à la tribune qu'en privé, un bon nombre de juges ou de responsables de différentes fonctions, y compris des greffiers, dans le monde juridique, nous ont dit on a vraiment de gros problèmes. Parce que ces lois, d'une part, ces lois ne sont pas très claires. Définies. Qu'est-ce qui est de sorcellerie, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Avec sous-entendu que je ne pense pas avoir rencontré un seul de ces juges qui disent « la sorcellerie, ça n'existe pas, c'est de l'imaginaire, ça, je ne pense pas qu'il y en ait ». Mais on se trouve devant une infraction pénale, qualifiée comme telle, mais qui n'est pas définie. Sorcellerie ne définit pas ce qu'est, ce n'est pas comme meurtre, comme vol, comme, il s'agit d'un comportement global et on va pouvoir accuser de sorcellerie quoi ? Un acte, une intention, une pratique. Tous ces gens du monde juridique, au Cameroun, il y avait aussi des Ivoiriens, me frappaient par leurs besoins et leur formation les avait orientés vers cela, à se référer à des textes ou à une jurisprudence de manière à s'appuyer sur quelque chose de solide et rigoureux, ne pouvant pas dire « je prends d'initiative comme ça, de condamner parce que moi je suis contre la sorcellerie, je lutte contre elle. J'ai besoin de véritable légitimation de mon jugement et de la peine qui va le suivre. » Et là, on en arrivait à ce qu'on leur demandait, une appréciation subjective. Celui-là, ben voilà, il est accusé. Vous allez décider, vous allez évaluer s'il est sorcier ou non. Dilemme que nous aurions tous, je suppose. Et où ils se sentent aussi démunis que nous, étant donné qu'il n'y a pas face en quelque sorte un mode d'emploi, une sorte de QCM qui permettrait de dire sorcier, oui, oui, ça plus, ça moins. Bon, sorcier à la fin, j'exagère un peu, mais ça serait leur idéal. Alors, dans cette appréciation subjective, il faut des idées, par exemple. Quel rapport entre l'ensorcelé, le client du sorcier, le contre-sorcier, qui est l'agressé, qui est l'agresseur? Est-ce que l'accusé est le coupable ou est-ce que c'est l'accusateur qui est le coupable? Si l'accusation est fausse, c'est l'accusateur, mais si l'accusation est juste, c'est l'accusé. Comment prouver la vérité de l'accusation? Sur quelle base? Sur quel fond? Y a-t-il un moyen de... Et tout... On a une série de rôles qui sont tellement interchangeables que tout porte sur des témoignages et sur des interprétations de témoignages. Et un film nous avait été projeté dans ce colloque qui était celui d'une jeune fille, 16-17 ans, qui accusait de sorcellerie une famille, particulièrement un homme de cette famille. Et le film faisait dialoguer, mais in absentia, chacun parlait, et on confrontait leurs discours, l'accusatrice et l'accusé. Et l'un et l'autre, si j'avais été le juge, j'aurais été incapable de dire si c'est cette jeune fille qui avait tous les symptômes d'une personne, disons, déséquilibrée, si vous voulez, d'éthique, des comportements bizarres, mais que l'on peut interpréter aussi comme conséquence de la sorcellerie, c'est ce qu'elle disait, et l'homme en question, et selon la lecture, et dans la salle, il y a eu deux lectures, et les gens se sont affrontés entre ceux qui disaient, vous voyez, elle a le courage d'accuser, et d'autres qui disaient, regardez, cette malheureuse victime d'une accusation. Le juge se trouve en face de cela. Et il a le problème de la preuve. Quelle est la preuve en matière de sorcellerie? Là, on rejoint des choses bien connues dans l'Europe du Moyen-Âge. Hein? La preuve en matière de sorcellerie réside dans la force de l'accusation et dans la conviction des juges qui vont arriver à faire cracher l'aveu, car l'aveu est finalement la seule preuve possible. La source de l'aveu, évidemment, pouvant dépendre de beaucoup de choses, la torture, la pression morale. Et alors, ce que je ne savais pas, mais des juges nous ont dit, nous avons un certain nombre de gens qui avouent pour pouvoir être mis en prison, parce que si nous les renvoyons au village, là, ils seront condamnés. Là, nous leur sauvons la vie en les mettant 5 ans en prison. Et d'autres qui avouent parce qu'ils sont persuadés d'être sorciers et qui disent de toute façon je saurais bien sortir par mes propres moyens. Mais la prison comme protection et la condamnation comme protection contre les sanctions du village devant quelqu'un que l'on juge comme innocent mais qui, s'il est renvoyé au village, va subir des sanctions beaucoup plus dures, mérite d'être dans notre conscience. Alors, mais par contre pour les juristes, la preuve, ça doit être aussi quelle est la matérialité des faits. Quels sont les faits matériels? On accuse quelqu'un de sorcellerie, on voit que quelqu'un a eu des malheurs, et le lien entre les deux. On voit que le sorcier a fait des pratiques, mais même si c'est quelqu'un qui avait l'intention de nuire, est-ce qu'il a nui vraiment? Ou est-ce que son action est un détournement d'agressivité? Il y avait il y a déjà de nombreuses années, un psychologue haïtien avait fait des enquêtes sur l'utilisation de la sorcellerie dans le vaudou comme dérive de l'agressivité et comme cause de diminution de la criminalité interpersonnelle. Voyant à quel point, en plantant des aiguilles dans une statue, ça évite de planter des couteaux dans le ventre du voisin. Et là, y a-t-il culpabilité dans l'intention, alors que l'intention aboutit à un acte beaucoup moins nocif que s'il n'y avait pas eu cela? Et d'autre part, si l'accusateur devient un persécuteur, si l'accusateur devient un assassin, est-il en état de légitime défense? Comment le juge va-t-il conclure qu'il était en état de légitime défense contre un sorcier qui l'agressait, alors qu'on n'a aucune matérialité des faits d'agression de la sorcellerie, qu'on a un seul fait, c'est qu'on a assassiné un tel en l'accusant de sorcellerie, ce qui n'est pas rare. Alors tout ça cause un très grand désarroi dans une justice qui voit se multiplier les procès en sorcellerie, qui les voit se multiplier dans ce monde urbain moderne, et qui ne savent vraiment, littéralement pas, où donner de la tête. Quand celui qui a assassiné un sorcier plaide la légitime défense, qu'est-ce qu'on doit recevoir? La plainte de la famille du sorcier ou l'affirmation de légitime défense contre quelqu'un qui mettait la vie en péril? Alors, les magistrats ont des positions extrêmement variables. J'ai été frappé d'un entretien avec, je peux donner son nom, M. Patrice Monte, qui est un avocat, un ancien bâtonnier du Cameroun, de Yaoundé, et je cite à peu près mot à mot: le sorcier communique avec les plantes et les animaux, les entités spirituelles d'autres mondes, les esprits des ancêtres. Peut-on faire de son activité l'objet d'une sanction pénale? Y a-t-il compatibilité entre ce monde et celui dont juge la loi? Alors là, on se trouve évidemment dans la position d'un avocat, c'est un discours d'avocat, bien entendu, mais c'est aussi sans doute un discours de conviction qui parcourt certainement aussi le juge qui est chargé de juger dans ce monde des événements qui participent à une autre logique et dont les conséquences dans ce monde ne peuvent pas être imputées aux lois de ce monde. Alors, une solution m'a beaucoup frappé. On a vu à la tribune pendant longtemps, ils ont passé plus de 2 heures, venir le président du tribunal de grande instance de Ntui, qui s'appelait Roger Kamtchoum, et qui était accompagné du chef traditionnel du deuxième degré du canton de Bachenga. Il s'appelait Rolangui Alain Tiené. Je vous donne les noms simplement si certains d'entre vous connaissent le Cameroun ou ses régions. Et ce juge s'est dit: moi je ne suis pas capable d'identifier les faits de sorcellerie. Si je demande à Denganga de m'aider, ils vont avoir une approche biaisée sur leurs opinions, sur leur relation avec le milieu. Et il transmet donc le dossier au chef traditionnel qui est venu sur la tribune, habillé de son costume qui ressemble à un peu à celui de nos préfets, vous voyez, avec une belle casquette, les dorures, etc. Chef reçoit le dossier et ensuite s'arrange comme il le veut à l'intérieur du village à discuter avec, ce juge nous disait, avec les anciens, enfin avec les notables, avec des spécialistes locaux de la question, et fait un rapport qui est un rapport d'expertise qu'il soumet au juge. Et ce rapport d'expertise, le juge en tient compte, dans un sens ou dans un autre, l'accepte ou ne l'accepte pas, comme il ferait du rapport d'un expert psychiatre ou balisticien, etc. Cette solution m'a paru intéressante, car elle donne au juge en même temps, sans doute, un certain confort intellectuel, une certaine légitimation de sa future décision, et elle est à la fois, d'une certaine façon, respectueuse de la tradition, sans lui donner un pouvoir qui contrarie et qui contredise ce qui, aux yeux du juge, est le plus important, c'est que le dernier mot doit appartenir à la loi. Mais, pour terminer un peu avec cette question de la justice, une autre conséquence de tout cela, c'est que toute condamnation pour sorcellerie a un effet pervers, c'est qu'il cautionne, il confirme la réalité du pouvoir du sorcier condamné. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Condamner un sorcier, c'est reconnaître qu'il est condamné. Et avoir été condamné, on sait que dans d'autres cas, c'est aussi un blason d'avoir été condamné, eh bien, avoir été condamné, c'est en quelque sorte renforcer sa réputation par le fait d'avoir été en prison. Étant donné que des autorités tout à fait fortes et objectives ont confirmé qu'il était suffisamment sorcier pour mériter condamnation et que de l'intérieur de sa prison même, il va pouvoir continuer à agir. Alors, je ne vais pas faire d'énormes commentaires pour terminer, mais je fais circuler ce livre parce que vous y trouverez les textes de beaucoup des interventions et aussi des textes. Ce livre a été pas mal retravaillé ensuite par Éric de Rosny, par moi accessoirement et quelques autres, et aussi des débats. Et une chose assez intéressante, c'est qu'on a fait circuler dans la salle pendant les 3 jours du colloque des petits papiers et tous les participants faisaient leurs commentaires ou posaient des questions. Et on a rassemblé tous ces papiers et ça a fait une espèce de document du public qui est assez instructif. Bien. La première question, alors là, c'est des questions que je vais me poser, non pas à partir du contenu et des objectifs du colloque, mais à partir, disons, d'une micro-anthropologie du colloque. En le regardant, comme observateur participant, c'est vraiment le cas de le dire tout à fait, j'ai d'abord été frappé du fait que ça a été organisé dans une université catholique. Et ce n'est pas tout à fait neutre. Je pense que je n'attaque aucun d'entre vous en considérant que le catholicisme n'est pas un des fondements du rationalisme et que quelque part il ne pourrait pas exister ou il n'aurait pas pu exister pendant longtemps sans l'idée de l'enfer, du diable, des saints. Et s'il existe en Afrique de l'Ouest une église des chérubins et des séraphins, une église du christianisme céleste et autres, s'épuisait directement dans la Bible relayée par les missionnaires, on se trouve devant un univers connexe à celui de la sorcellerie, à ce discours, mais jamais contradictoire, opposé peut-être, mais vivant sur le même terrain. Et cela, on ne doit pas l'oublier, car quelque part, l'Église vient cautionner à sa façon l'existence de la force du sorcier, ne serait-ce qu'en disant qu'il travaille avec le diable, avec le démon. Le seul fait de dire que c'est des démons, dit, ben alors, ça existe. Et je me souviens d'une discussion avec un jeune homme qui m'avait beaucoup impressionné, qui faisait partie d'un groupe sataniste, et qui me disait, et je veux dire qu'il m'a presque convaincu, et j'espère en convaincre l'un ou l'autre d'entre vous, disait, mais quand même, si on est des fidèles disciples du Christ et de l'Évangile, Ça veut dire que nous acceptons un berger qui va nous conduire comme des moutons, que nous allons être soumis à un Dieu qui nous a créés pour son bien-être. Tandis que l'ange qui s'est révolté a affirmé la dignité qu'il avait de lui en tant qu'être souverain, affirmer en quelque sorte ce que l'homme doit être, c'est-à-dire libre, y compris face à un Dieu qu'il a créé comme son jouet, et on est en quelque sorte un peu comme Pinocchio se révoltant contre son père, on n'est plus la marionnette. Et cette pensée-là n'est pas sans séduction. Et l'Église, de ce point de vue, en renvoyant le sorcier au diable, c'est-à-dire au mal, et lui interdisant d'être le porte-parole d'un bien, vient quelque part confronter le devoir de soumission, et tout ça ne m'a pas paru sans ambiguïté. C'est très différent de ce qui se passe dans le monde de l'hindouisme, où en quelque sorte on traite d'égal à égal, où chacun dit à l'autre, mon petit tu sais pas, mais c'est moi qui t'englobe dans mon truc. Oui, tu dis que tu es catholique, mais c'est quoi? C'est une variété, mais tout ça, on peut le mettre dans notre religion. C'est tout ce que tu dis là, mais c'est déjà dans l'hindouisme. Là, ça ne marche pas, c'est au pour ou au contre. Et ça, je n'entrerai pas trop dans le détail, mais ça m'a beaucoup frappé. Et... Bon. La deuxième chose, c'était que les discours des anthropologues, et Dieu sait si celui d'Alban Bensack est un homme de grande qualité, était bien pour un anthropologue, ont fait l'objet d'un rejet extrêmement violent dans la salle. Tout le thème d'Alban Bensack était comment fonctionne l'attribution des causes du malheur, comment on construit le pouvoir malveillant d'autrui comme cause du malheur, n'impliquant en rien l'existence de pouvoir non naturel, et analysant cela dans le fonctionnement d'un groupe social et dans le fonctionnement des individus et de leurs tensions familiales, de voisinage au sein de ce groupe social. Et tout ce langage de la sorcellerie apparaissait effectivement comme un langage symbolisant ces rapports et non comme la traduction ou la description d'un monde extérieur de pouvoir réel. Et Abega, camerounais, lui, allait dans le même sens, en voyant la sorcellerie un champ de confrontation et un champ de transfert de responsabilités face au refus de l'action. Dans les deux cas, on excluait en quelque sorte la sorcellerie de la réalité. On la mettait comme comme outil transitif simplement, comme une espèce d'enzyme entre deux réalités. Et la salle, pendant leur discours, avait des murmures réprobateurs, mais parfois même boubou comme ça, et des questions, des refus extrêmement nombreux. Alors, je me suis posé la question si dans ce type de public, qui est à la fois confronté avec ce problème, que ce problème angoisse, pour certains, à cause de leur fonction juridique, il leur pose des problèmes de conscience professionnelle. L'approche, aussi scientifique soit-elle des anthropologues, n'avait pas oublier quelque chose, c'est que la conviction de l'autre est un fait plus important que ce qui fonde sa conviction. Or, s'attachant à ce qui fondait leur conviction, ils oubliaient cette conviction et ce en quoi elle était pour eux constructrice du monde. Et puisqu'on est en face d'anthropologue, c'est une réflexion que je me suis posée moi-même sur des travaux que j'ai pu faire face à des thérapeutes traditionnels, et une question qui me harcèle, je suis en train d'essayer avec beaucoup de mal d'écrire un bouquin de synthèse, comme on dit, le dernier, et dans lequel j'essaye de répondre à la question, quand je pratiquais longuement, Dieu sait si c'était long, ces cultes hindous, Et qu'ensuite on me demandait, mais est-ce que vous y croyez? Et que je me suis rendu compte que la question était fausse. Mais pour expliquer que la question est fausse, que le problème n'est pas de croire, ni de croire, mais de pénétrer dans ce qui fonde, dans ce qui est la conviction de l'autre, c'est fort difficile. Et dans le cas de la sorcellerie, c'est sans doute une des voies à prendre, mais dire cela à un juge et lui dire c'est là-dessus que vous allez fonder votre jugement, ce n'est pas possible. Il lui faut, comme je disais tout à l'heure, la matérialité des faits, la construction de la preuve, un code précis. Et dans la sorcellerie, où tout est flou, on ne sait même pas si le coupable est l'accusé ou l'accusateur, les juges sont de plus en plus paumés, étant donné que les procès sont de plus en plus nombreux. Alors je voulais attirer, et je remercie M. Sommann de m'avoir donné cette occasion, votre attention sur cet angle d'attaque d'un problème que parfois les anthropologues voient dans la vie quotidienne, ou à l'intérieur d'une communauté restreinte, ou à partir d'éléments théoriques sur la magie ou sur la sorcellerie, mais qui, dans le monde contemporain, pose des problèmes concrets. Et je crois que là, les anthropologues auraient beaucoup à dire, à condition de prendre en compte toutes les réalités, pas seulement les réalités qui correspondent à leur propre théorie. Merci.
Merci beaucoup, Jean-Benoît. Vraiment, un exposé d'une grande richesse qui pose plein de questions et j'y suis d'autant plus sensible que moi aussi j'ai été confronté au droit et au collège. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans une faculté de droit et j'ai fait une licence de droit. Donc c'est ce problème-là auquel. Je suis également sensible comme vous et il y a plein de choses dans votre communication qui ont excité mon appétit théorique. Alors, en fait, on voit bien, d'abord, vous avez très très bien relativisé la différence entre l'univers africain qui serait l'univers sorcellaire et puis l'univers moderne qui serait l'univers où la sorcellerie aurait été définitivement écartée. On voit bien, en fait, le jugement, est-ce qu'on ne peut pas poser la question, est-ce que le jugement n'est pas une forme moderne du désorcellement ou de l'exorcisme, ou bien, et ça c'est votre hypothèse et je crois qu'elle est solide, finalement une mise en valeur paradoxale de l'action sorcellaire, hein, justement en confirmant la nature du sorcier. Puis il y a le thème de l'accusation, hein, et là la structure paranoïaque de la sorcellerie comme de la justice. Et là, en vous écoutant aussi, je pensais au procès de Kafka. Est-ce que c'est pas finalement un récit d'ensorcellement moderne, d'un certain point de vue, hein, et puis également à l'Inquisition, hein, l'Inquisition qui jugeait précisément des affaires de sorcellerie. Mais en même temps, l'Inquisition, faut pas croire que c'était un tribunal sauvage et organisé n'importe comment. Au contraire, c'était extrêmement rationalisé. Il y a eu des travaux historiques. Hein. Je pense au texte du juriste catalan Emmerich, XVe siècle, qui décrit par le menu vraiment toute la procédure du tribunal de l'Inquisition, en particulier pour l'extirpation de la sorcellerie. Alors, il y a l'idée aussi également de la condamnation des accusateurs et l'opposition entre les droits anglais et français, hein, où on voit bien l'opposition classique, hein, entre le droit anglais qui est la théorie de l'habeas corpus où il faut prouver la culpabilité de celui qu'on accuse, et puis le droit français où il faut prouver qu'on est inculpé, il faut prouver qu'on est innocent. Et c'est marrant comme on retrouve autour de la sorcellerie cette opposition entre les deux traditions juridiques. Également, c'est très intéressant, l'idée que le sorcier qui a été condamné, dont le pouvoir a été confirmé, et le fait qu'il soit en prison n'enlève pas son pouvoir. Et donc c'est le sorcier, en quelque sorte, échappe à la sanction ordinaire, qui peut continuer à agir depuis la prison. Ça, c'est une idée qui me paraît intéressante. Enfin, je me demande si on est vraiment sorti, justement, à travers tout ce que vous avez dit, si on est vraiment sorti si on est vraiment dans un système qui est substantiellement différent de celui de l'Afrique, et si en Afrique, le fait qu'il y ait une recrudescence des accusations en justice pour sorcellerie est si exotique que ça. Évidemment, l'hyper-médiatisation, en particulier des affaires politiques, l'anathème, hein, les accusations, les scandales qui éclatent par la voix des médias et parfois même les calomnies, hein, peut-être s'apparentent à une structure qui n'est pas si éloignée que celle de la sorcellerie, toute proportion gardée. Et je pensais à un cas très précis d'ailleurs. C'était, même si ça peut amuser, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de l'élection présidentielle, la dernière, ou juste après ou juste avant, je ne sais plus, il y avait des gens qui avaient eu l'idée assez amusante de sortir des poupées de type sorcellaire, justement, de Ségolène Royal, de Sarkozy. Et il y a eu une action en justice contre les concepteurs et qui ont été condamnés. Et en particulier, c'est Sarkozy, je crois, qui a mis en branle la justice pour condamner et punir les gens qui avaient eu l'infâme idée de. Et donc, comme s'il avait finalement peur de cette création et du fait que des gens puissent planter des aiguilles dans sa figurine. Donc, voilà, ça c'est aussi un prolongement du débat. Peut-être que notre société spectaculaire, médiatique et. Où le politique tend à se réduire souvent à des gesticulations et à des anathèmes, peut-être n'est pas si éloigné que cela d'un complexe classique de la sorcellerie.
Il y a un exemple encore plus frappant dans nos sociétés, vous l'avez sans doute, certains d'entre vous l'ont rencontré, un sorcier très particulier, aux yeux de bien des gens, c'est le vaccin. Le vaccin, dont on sait à quel point il a transformé la santé publique, est accusé par certaines gens, au point que maintenant il y a en France ou dans d'autres pays, en Grande-Bretagne notamment, des familles où on refuse de vacciner les enfants, sur des accusations où aucune n'est fondée scientifiquement, du danger du vaccin, de la menace par le vaccin, etc. Et les formes de rationalité d'accusation mériteraient d'être transférées là. Mais pour terminer, j'ai oublié de vous proposer quelque chose. C'est que ce qui m'a frappé pendant ce colloque, c'est que il y a ceux qui. On parle toujours de lutter contre la sorcellerie. Et alors, c'est véritablement la bataille contre l'hydre. Alors que, moi, ce que je me permettrais de proposer modestement, c'est de voir les champs dans lesquels. Initialement, on peut la circonscrire, lui concéder des zones en nettoyant d'autres, en disant non, là, ça c'est pas elle, là elle n'y est pas. Et c'est ce qui s'est passé dans nos sociétés. Peu à peu, on a retiré à leur sorcellerie ou au surnaturel les orages et la foudre, puis peu à peu, divers autres malheurs, et. Il y a des zones d'inexpliquées auxquelles, pourquoi ne pas concéder cela, de manière, en circonscrivant, on crée en quelque sorte des abcès de fixation qui permettent de dégager de grands espaces. On peut lutter contre l'accusation de sorcellerie chez l'étudiant qui voit que son examen a échoué. En circonscrivant sans doute aussi, en disant oui, s'il y avait ceci, il y avait cela, etc. Et peu à peu, la lutte est beaucoup plus de prendre du terrain en gardant des poches provisoirement que ces attaques globales et de front qui ne servent généralement à rien, car elles attaquent à ce moment-là à la fois l'identité des gens, ma grand-mère disait ceci, etc. Oui, elle disait ça, mais ça s'appliquait seulement dans ce cas-là, seulement dans celui-là. Je vois, c'est ce qui se passe bien souvent dans la mise en accord des médecines traditionnelles avec la médecine moderne. Lorsqu'on arrive à faire collaborer les deux, c'est en concédant, oui d'accord. Si vous avez mal à la tête, vous pouvez prendre une tisane. Enfin, si vous avez un cancer, prenez autre chose. Et peu à peu, on arrive quand même à faire la part des choses. Et cette idée de circonscrire, je vous la propose, c'est tout.
Des questions Oui, Steve.
I apologize. I was speaking English.
Yes.
Can you follow me? It seems to me that the great question that your talk raises, and it's a fine talk, is the question of incommensurability of systems of meaning. Because it seems that the system of meaning that is that of either English or French justice is profoundly different than the system of meaning that is involved in witchcraft and sorcery accusations, especially with regard to questions of evidence. Now, the question I pose to you is, are those two systems of meaning incommensurable? Certainly, Evans Pritchard would have answered yes, I think.
Yes, you are right. Evans Pritchard, yeah. Moi, je pense que c'est deux mondes, oui. Mais lorsqu'on travaille au Cameroun, on ne doit pas travailler comme au Nigeria, c'est sûr.
Pourquoi ? Quelle est la...
En raison de toutes ces implications dans la construction du système juridique, de la représentation, dans le système de symbolisation, de signification, de la nature de ce qu'est une preuve, de qu'est-ce qu'est coupable, on est en face... Et alors, justement, il y a des cas extrêmement intéressants pour ça, c'est les systèmes de droit mixte, common law, droit civil, ou droit écrit comme au Québec ou à l'île Maurice. Vous avez des jeux d'interférence juridique extrêmement intéressants, parce que le Québec et l'île Maurice sont de beaux exemples, où il y a le common law pour le droit pénal et le droit civil pour le droit privé. Mais avec des interférences de l'un et de l'autre dans certaines circonstances et des contradictions de systèmes de pensée.
Et est-ce que ça a un effet sur la pratique de la sorcellerie elle-même ou non ? Pas du tout.
Je sais pas, moi je connais pas. Quelqu'un connaît la sorcellerie en pays anglophone d'Afrique ici ?
Oui.
C'est juste une petite réflexion sur celle que vous proposez à la fin. Comment faire, c'est-à-dire vous pouviez conseiller des objets de fixation, des zones où on consacrerait des pratiques, alors que vous avez démontré finalement que c'est un système total. Et que même si la justice seule concèderait des zones, justement, des objets de fixation comme ça, eh bien, elle aurait un travail supplémentaire qui serait de déterminer si ça rentre dans ce cadre ou pas, parce que ça n'arrêtera pas le processus, bien entendu. Et,
oui.
Voilà, enfin, je veux dire, d'après moi, on peut discuter à l'infini.
Oui, vous pensez que ce que je dis est utopique, c'est peut-être vrai.
Ce n'est pas tellement de l'utopie, mais ça prouve en tout cas que c'est un système à part, comme vous le disiez, qui est total, donc qui fonctionne sur lui-même, avec ses références, son système de pensée, ses systèmes d'action, etc. C'est même illusoire de pouvoir le contraindre. Et juste pour finir sur Haïti, puisque vous en parliez aussi, lorsque l'épidémie de choléra s'est déclarée il y a quelques mois, en fait, immédiatement, il y a eu un autre système d'interprétation et des Ougans ont été agressés, même tués, donc des praticiens, des officiants du système de Vaudou ont été accusés par d'autres d'avoir dans certaines localités, donc... lancer donc c'est cette maladie qui a été trouvée notamment par une pensée que c'était des agents pakistanais de la
je me demande si en pensant à tout cela nous n'avons pas une tendance à figer un peu la dynamique de l'histoire y compris dans toutes les sociétés. Je veux dire, on a fait allusion plusieurs fois au Moyen-Âge. Rappelez-vous ce qui se passait en Allemagne au Moyen-Âge quand des villes entières se suicidaient ou se massacraient à travers une secte, les accusations de sorcellerie multiples qui parcouraient les campagnes françaises, etc. Et comment ce champ existe encore, mais est circonscrit. J'ai vu il y a quelque temps un beau cas de sorcellerie à Marseille où le désorceleur est intervenu, l'objet c'était une lampe qui était posée sur une table de nuit, il a fallu désorceler ça, ça se passait près de la Canebière, etc. Oui. Mais c'est un ensemble qui est désormais circonscrit, limité. Ce reflux en quelque sorte est sans doute une évolution inéluctable dans tout pays, y compris en Haïti. Mais je me demande toujours si nous n'avons pas parfois une tendance, évidemment comme anthropologue je ne veux pas sacrifier la culture, c'est mon gagne-pain, mais quand même à stabiliser la culture à jamais dans un endroit pour perpétuellement percevoir des différences alors que des dynamiques qui sont sociales, qui sont mondiales aussi, font transformer ces regards, y compris ces systèmes de pensée. On peut le supposer, en tout cas on n'a pas le droit de se l'interdire. Mais question d'échelle, je pense qu'on n'est pas toujours assez historien, assez, on ne tient pas compte, on pense souvent en deux dimensions, alors que la troisième, celle du temps, est constructrice de l'objet.
Oui.
Une toute petite considération. Et par rapport à l'invitation que le professeur Benoît a fait sur la nécessité de éclaircir ce que la sorcellerie est ou n'est pas comme une trajectoire possible dans ce pays. Des observations au Mali, par exemple, j'ai connu, j'ai été témoin des juges qui ont préféré s'en laver les mains et confier aux autorités traditionnelles des problèmes qui n'arrivaient pas à gérer, à maîtriser, notamment l'accusation d'un blocage de l'appui, ou bien des problèmes encore plus compliqués, à mon avis, c'est-à-dire le problème de la propriété foncière, la question de la terre, qui est souvent mêlée à ces accusations, à ces soupçons. De l'autre côté, un terrain que je ne connais pas, mais tout le monde ici le connaît, c'est la Sud-Afrique. En Afrique du Sud, dans l'article de Komarov, Criminal Justice versus Cultural Justice, il y a notamment un cas où la Cour accepte de reconsidérer les jugements après un assassinat, là où l'imputé s'était justifié en disant qu'il avait tué un sorcier. Et la peine est réduite de manière incroyable. Donc je crois qu'il y a des zones grises d'incertitude où les juges, qui je le connais, ils sont des personnes très rigoureuses, mais n'arrivent pas à sortir de ces défis. Et donc, parler de justice transitionnelle, c'est déjà admettre la force de l'incommensurabilité dont notre collègue venait de parler. Donc il y a effectivement des problèmes que nous n'arrivons pas encore à éclaircir, à nommer ou à donner une solution à ce problème. Et oui, je vais retourner sur cette considération. Donc on est dans l'impasse, on dirait, parfois.
Mais ce que vous dites est très juste, et justement c'est ce que disaient ces juges camerounais. Comme le disait l'un d'eux, nous on n'est pas là pour rendre la justice, on est là pour terminer les procès. Alors ça veut dire qu'à un certain moment, il faut trancher, on n'est pas sûr d'avoir raison, et il faut trancher, ils doivent faire un jugement. C'est vrai, mais quand même, ils se posent la question, comment faire que ce jugement soit le plus juste, le plus conforme, en tout cas le plus conforme à des textes qui le légitime. Et évidemment, il n'y a pas toujours.
Oui.
Bonjour. Je voulais juste. Bon, ce n'est pas une véritable question, c'est pour revenir sur un point qui me semblait plutôt important et intéressant. C'est lorsque, au début de votre communication, vous avez dit que le colloque de Yaoundé a été. Un colloque, évidemment, mais aussi un objet anthropologique à observer. Et qu'il a lieu par rapport à certaines des interventions qui ont été faites, des polémiques lors du colloque, après, on en a aussi la perception qu'il y avait une certaine tension peut-être avec le public à un moment donné. Ouais, je connais la Saint-Patrick à côté, donc j'ai travaillé sur la sorcellerie à Saint-Patrick, et avec M. Martinelli, on a eu des expériences aussi de colloques, et il se passe exactement la même chose. Je me rappelle que ça s'est passé aussi ici à Aix, lors d'un séminaire il y a quelques années, c'est une expérience que j'ai vécue beaucoup de fois, d'être lors de ces colloques où on essaie d'exprimer son opinion sur le thème de la sorcellerie, qui se dégage immédiatement, je dirais, une sorte de polémique avec le public. Alors, c'est pas pour essayer de résoudre cette polémique, parce que je pense qu'il est effectivement, il y a quelque chose d'incommensurable entre deux systèmes d'interprétation de la réalité, je dirais. C'est lui peut-être des anthropologues, par exemple, d'un côté, et c'est lui des experts de la sorcellerie, par exemple, les Ganga de l'autre. Mais je pense que d'un côté, l'anthropologie, elle se fait aussi dans cette polémique, même dans la violence, parfois de cette polémique, dans le fait de faire. C'est un objet à observer. Et je pense de l'autre côté que c'est la sorcellerie aussi, au moins en Afrique équatoriale, qui se fait aujourd'hui, qui, je dirais, qui évolue dans son imaginaire, grâce à ces occasions. C'est-à-dire que étant une pensée, une croyance qui a la capacité d'englober, de s'approprier d'une multiplicité d'objets, par exemple de la modernité, et l'entretien aussi a un rapport très spécifique avec la science occidentale, et donc avec l'anthropologie aussi. Alors, dans le milieu de la pratique, on le sait bien, par exemple, le mimétisme de la structure hospitalière avec les données, avec l'habillement qui est des petites limites, etc., qui rappelle les hôpitaux. Dans tout autre milieu, je dirais plutôt celui vraiment de la confrontation comme il arrive parfois, entre le ganga et l'anthropologue, mais c'est un autre moment dans lequel la sorcellerie aussi est en train de puiser, dans cette même polémique, dans cette même confrontation, il est en train de puiser sa force et de se renouveler dans cet imaginaire, parce que le discours, après, sur la pratique, c'est un autre. Et donc, je pense que vraiment, ces occasions de colloque sont vraiment un objet anthropologique à observer avec beaucoup d'attention.
C'est tout à fait vrai. Chez les guérisseurs, ce qu'on appelle un peu les néo-traditionnels, qui reprennent des formes de la médecine tout en ayant des logiques qui ne sont pas la sienne, sont un exemple typique.
Merci. Je crois qu'il va falloir, hélas, qu'on interrompe ce débat, mais quitte à le reprendre à partir des autres interventions. Et donc, sans plus tarder, je vais maintenant passer. Merci beaucoup encore, Jean-Benoît, c'était absolument passionnant.